C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Il est 19h passé de 5 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, délai pour l'avortement, une presque bonne nouvelle en France et une franchement mauvaise nouvelle aux États-Unis. Le compte n'y est pas pour garder une neutralité.
Ensuite, on va parler aide publique avec le 440 qui a tellement de pognon qu'il ne sait plus quoi en faire.
Et puis, pour faire comme tout le monde, on va parler de Joséphine Baker. La France aime bien les femmes noires à condition qu'elles soient mortes.
Ensuite, on parlera... parce que t'as inversé des trucs.
Ouais,
on parlera d'Armanin qui danse sur les cendres des 27 naufragés dans la Manche.
Et puis la SNCF va supprimer temporairement plein de TER dans le coin, Chambéry, Grenoble, tout ça, juste parce qu'elle n'est plus capable de les faire fonctionner.
Eh bien c'est super tout ça.
Et on va commencer par une petite brève. Allez, je m'y mets. Une pétition en ligne a récolté plus de 100 000 signatures pour l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche. Un truc de dingue.
Combien tu dis ?
100 000 signatures en ligne.
Pas mal.
Alors c'est même pas massivement un souci écologique ou un souci pour les animaux qui dominent ici, c'est plus l'idée que les humains non chasseurs puissent des fois se balader un peu en dehors des villes sans risquer de se faire flinguer. Quand je dis en dehors des villes, c'est donc, on le sait depuis récemment, même sur des autoroutes. En tout cas, plusieurs facteurs ont amené au succès de cette pétition, et on le répétera jamais assez, les copines de ce gars qui s'appelait Morgan Keane et qui s'est fait flinguer dans son jardin parce que le chasseur l'avait pris pour un chevreuil il y a un an maintenant, deux ans, je sais plus. Les copines de ce gars-là, en tout cas, ont fait un travail gigantesque, admirable, un énorme travail de sensibilisation sur le fait que les chasseurs tuent chaque année, finalement, un bon paquet d'humains. En plus, bien sûr, de massacrer les animaux à tour de bras, y compris les chats de leurs voisins et les oiseaux en voie de disparition. Toujours est-il que la pétition lancée par cette bande a donc dépassé le seuil des 100 000, ce qui fait que le Sénat doit se saisir de la proposition de loi. Alors, devinette, sachant que, premièrement, le Sénat est quand même majoritairement à droite, c'est-à-dire les Républicains, c'est-à-dire le parti de Wauquiez, le gars qui drague la ruralité pourvu qu'elle soit ultra-raciste et dopée au glyphosate. Sachant que, deux, l'Assemblée nationale, elle, est majoritairement LREM, c'est-à-dire le parti de Macron, le gars qui réautorise les modes de chasse tellement cruels et tellement nuisibles à la biodiversité que même le Conseil d'État les avait interdits. Sachant tout ça, calculer le nombre de chasses, de chances que la chasse soit réellement interdite les mercredis et les dimanches, avant ou après l'élection présidentielle.
La
plus rebelle des radios.
Alors, l'Assemblée nationale a de nouveau adopté hier l'extension du délai légal pour pratiquer une IVG à 14 semaines de grossesse au lieu de 12. Est-ce que ça veut dire que c'est une bonne nouvelle et que réellement on va pouvoir avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse ? Eh bien, rien n'est moins sûr. Puisque le Sénat avait déjà refusé le projet de loi, donc on ne peut pas encore du tout considérer que la loi est votée. Le Sénat doit encore se prononcer. Il doit, logiquement, il va encore être contre. Et la prochaine fois que l'Assemblée nationale décidera un truc, à ce moment-là, ça sera la bonne. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Mais autant dire que, comme en l'occurrence, il s'agit d'une loi sur l'avortement, pas du tout un truc qui sert à réduire les droits des pauvres, à des chômeurs, des je sais pas quoi, à faire en sorte que les entreprises aillent mieux ou que sais-je. Du coup, la personne considère qu'il y a vraiment urgence en quoi que ce soit. C'est un truc qu'on a tout le temps d'y penser. Donc ça sera vraisemblablement pas fait avant la prochaine présidentielle, c'est-à-dire aussi avant les prochaines législatives. D'ici là, on ne sait pas bien qui y aura au Sénat, qui y aura à l'Assemblée nationale. Bref, rien n'est gagné sur cette histoire. Alors, que dire d'autre sur ce vote qui a eu lieu hier ? Bon, ma foi, on va le dire, on pouvait s'y attendre. La droite non LREM, c'est-à-dire globalement les Républicains et le Rassemblement national, était globalement contre l'extension du délai. Ils préfèrent que ça reste à 12 semaines, voire que ça soit plus ou moins pas possible pour les femmes d'avorter. Et là où il y a eu plus de débats et où la droite a plus gagné, bah oui, parce que LREM quand même, blabla, le droit des femmes, grande cause nationale du quinquennat, que sais-je. Donc là, en l'occurrence, ils ont, comme il n'y a qu'eux qui votent, enfin comme leur vote à eux suffit à l'Assemblée nationale, cette histoire de délai s'était gagnée sur ce point Assemblée nationale. Mais là où il y a eu plus de débats et où finalement la droite et l'extrême droite ont plus gagné, c'était la clause de conscience. Qu'est-ce que c'est la clause de conscience ? C'est le principe qui fait que les toubibs peuvent refuser de pratiquer un avortement. Vous voyez, en gros, un médecin, quand on lui demande quand on lui demande un acte médical, c'est son boulot, on ne lui pose pas la question, il doit le faire, point final. Je veux dire, s'il bosse à l'hôpital et qu'on lui demande d'opérer l'appendicite, il ne peut pas dire « Non, les appendicites, j'aime pas ça, j'en ai rien à foutre, je ne vais pas le faire ». Donc, globalement, un acte médical, le toubib, il doit le faire. Mais l'avortement, non, là, c'est pas pareil. Et donc, il y a ce truc qui s'appelle la clause de conscience qui fait qu'un toubib peut dire « Non, moi, l'avortement, hors de question que j'y touche ». Et pour abolir cette clause de conscience, une partie des députés LREM a considéré... Olivier Véran, par exemple, il trouvait aussi que... Enfin, il trouvait aussi que, quand même, cette clause de conscience, c'était un truc précieux. A considéré, comme la droite, disons, plus classique, et comme les fachos, a considéré que cette clause de conscience est, ma foi, très importante, parce que l'avortement, c'est quand même pas un acte médical comme un autre. Alors merci les gars, c'est vrai que si on commence à considérer que la santé des femmes, c'est comme la santé de tout le monde, où on irait ? Bref, c'était ce vote d'hier, c'était comme une mini bonne nouvelle qui débouchera peut-être même sur rien du tout. Pendant ce temps, aux États-Unis, on parle aussi de l'avortement. Et là, on rigole encore beaucoup moins. Les juges de la Cour suprême doivent, en ce moment même où je vous parle, être en réunion depuis 10h du matin. Mais c'est-à-dire que 10h du matin, je pense que c'est il y a 2h pour eux, pour statuer sur une loi du Mississippi. Le Mississippi, mais ces gens-là font des lois, quoi. Une loi qui interdit les avortements après 15 semaines. Alors là, on vient de dire en France, on vient de passer de 12 à... Enfin, on voudrait passer de 12 à 14 et ça serait un progrès. Mais dans le Mississippi et dans, globalement aux États-Unis, il y a des histoires de plutôt de 22 semaines, je crois, c'est-à-dire jusqu'à ce que le fœtus soit viable. Donc 15 semaines, c'est de toute façon un recul et c'est un gros recul. Le problème, c'est que la Cour suprême qui va statuer là-dessus, après les deux nominations de juges à la Cour suprême faites par Trump, je ne sais pas si vous en souvenez, mais en gros, la Cour suprême, c'est 15 bons hommes et bonnes femmes, 15 personnes, des vioques, mais pas si vioques que ça. Enfin, on peut pas compter sur le fait qu'ils vont mourir bientôt et qu'on va pouvoir les re-remplacer bientôt.
C'est ça, parce que la particularité... Oui, c'est ça, ils sont à vie, il faut attendre qu'ils meurent pour...
C'est ça, ils sont nommés par le président des États-Unis et ils restent à vie. Il y en a deux qui sont morts pendant que Trump était président, et du coup il a élu deux vieux réacs pourris qui, bien sûr, pour le coup, sont complètement anti-avortement, puisqu'on sait qu'aux États-Unis c'est un enjeu un peu énorme, cette histoire d'avortement. Ce qui fait que maintenant les réacs et les anti-avortements sont complètement majoritaires à la Cour suprême, ils sont plutôt 9 contre 6. Et au-delà de la loi du Mississippi, en fait, ce qui risque d'être en train de se passer en ce moment même entre ces gens, c'est qu'il risque d'être en train d'annuler le fameux arrêt, pour les gens qui ont déjà lu 3 ou 4 trucs sur l'avortement, en particulier aux États-Unis, ce nom leur dit quelque chose, l'arrêt Roe versus Wade, qui est un truc qui date de 1973, et c'est ça qui a légalisé l'avortement sur la globalité du territoire américain. Alors si vraiment la Cour suprême annule ce truc, l'équivalent américain du planning familial, estime qu'il risque d'y avoir 28 États qui risqueraient d'interdire plus ou moins l'avortement. Alors bien sûr, il y a 1000 manières d'interdire l'avortement. Il y a très très peu de pays dans le monde où il est interdit purement et simplement. Mais il peut être rendu impossible de 1000 manières différentes, en raccourcissant énormément les délais, en faisant en sorte que ça soit compliqué pour les toubibs qui pratiquent l'avortement. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... En l'interdisant, mais sauf pour les cas de viol, d'inceste ou je ne sais quoi, à condition que ça soit tellement ultra prouvé que de toute façon, il faut 10 ans de procès, alors après, c'est un peu tard. Bref, c'est un peu ça qui risque de se passer dans 28 États, et ça concernerait finalement une population de 36 millions de femmes aux États-Unis.
Du mercredi.
Et alors, retour en France et on va faire un tour du côté du 440. Et grâce aux nombreuses, mais alors très nombreuses aides publiques injectées par l'État et donc par nos finances, durant la crise qui continue du Covid, les entreprises du 440 ont tellement, mais alors tellement gagné de pognon qu'elles s'en sont mis plein les poches. Alors déjà, le 440 enchaîne les records depuis 2021, c'est 57 milliards de bénéfices rien qu'au premier semestre. Alors pour les gens comme vous et moi qui ne vous rendez pas compte, c'est un record. Enfin, ça fait partie des records. Je veux dire, c'est peut-être pas le plus gros bénéfice, mais c'est quand même assez dingue. Mais les grandes entreprises se retrouvent également à racheter leurs propres actions dans des proportions encore jamais vues. Pareil, c'est des choses qui se font, mais là, les proportions sont complètement dingues.
Ouais.
Alors, en gros, hein, le but, ce que je te vois me regarder avec ce que ça peut vouloir dire de se racheter ses propres actions, toi qui en as plein, ne t'inquiète pas. C'est sur le volontariat, hein, on te force pas à les vendre, à les racheter. En gros, le but.
Moi, parfois, je me rachète un fond de paquet de tabac.
Ah, bah, tu vois. En gros, le but, c'est de diminuer le nombre d'actions en circulation, donc d'augmenter leur valeur, et donc par ce conséquent, d'augmenter la valeur du patrimoine détenu par les actionnaires. En gros, si tu as trois actions, tu t'en fous, mais les gros actionnaires, voilà. Au premier semestre, le CAC 40 a racheté pour 6 milliards de rachats d'actions et les groupes français devraient encore en racheter. Alors ça, c'est des spéculations, mais qui vont très probablement arriver. En tout cas, ce sera pour à minima 11 milliards d'euros d'actions rachetées. Ce qui fait donc 17 milliards d'euros, le record absolu étant de 19 milliards. C'était juste avant la crise de 2007. Vous voyez, ça n'arrive pas non plus tous les dimanches. 17 milliards qui ont été confisqués aux salariés qui auraient pu servir, allez, par exemple, aux augmentations de salaire. L'article Basta, hein, où j'ai trouvé cette info, s'est amusé à comparer, en plus des augmentations de salaire qui auraient été logiques pour les salariés de ces groupes-là, à comparer ces 17 milliards d'euros en équivalent d'investissement public. Parce que vous me direz, c'est logique, parce qu'on parle d'argent public, là, quand même, pour soutenir l'économie. Alors, 17 milliards pourraient financer, par exemple, 34 hôpitaux publics, au hasard, hein, pendant la crise Covid.
Ouais, tiens.
Ou 400 lycées. Ou alors, c'est bien, on se rend compte que 34 hôpitaux, ça équivaut à 400 lycées. Ou alors, employer 320 000 salariés au salaire moyen pendant un an. Ou alors, rénover entièrement 340 000 passoires énergétiques. Ah, vous voyez, pour un président qui a dit les réductions d'émissions de gaz, tout ça, c'est une priorité. Bon, bah voilà, on aurait pu conditionner un peu ces aides publiques, mais
ils n'ont pas fait de calcul de ce que ça aurait pu faire en termes de rénovation de lignes de train.
Non, bah, je pense.
C'est dommage, on en parlera tout à l'heure.
Dans la région, ça aurait pu en faire pas mal. Quelques-unes, quoi. Et si on met en perspective le nombre de destructions d'emplois, bon, bah là, on se dit que quand même tout ça est quand même bien cradingue, ce qui se passe là dans ces grosses entreprises. Parce que pour des boîtes comme LVMH, qui sont donc au 440, qui suppriment 13 000 emplois en 2020 et réalisent 5,3 milliards d'euros de bénéfices en 2021, c'est quand même pas rien. Alors, c'est pas parce qu'ils ont... Enfin, vous voyez, c'est pas ils se sont dit « Ah, bah tiens, en fait, on aurait bien fait de les supprimer, ces 13 000 emplois. » Non, non. BNP Paribas, c'est 5 500 emplois en moins pour 2 milliards d'euros l'année suivante. Et ArcelorMittal, alors là, c'est le record absolu, 23 505 emplois supprimés pour 2,2 milliards d'euros dépensés, eux, dans des rachats d'actions, rien que pour cette année. Donc voilà, donc merci. Où va l'argent public ?
Joséphine Baker. Ben oui, on ne pouvait pas passer à travers. Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Des fois, ça donne envie d'en parler aussi, finalement. Mais ce micro. Alors, tout ça pour dire que si on ne se contente pas d'écouter les discours du président, mais si on examine aussi le contexte dans lequel ces discours sont prononcés, ma foi, la perspective de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker change un petit peu le message qui est apporté, le fameux grand message qu'on n'arrête pas de nous répéter, que Macron, en faisant entrer Joséphine Baker au Parlement, veut montrer à quel point la France est un pays ouvert, pluriel, etc. Peut-être que c'est pas si simple, ou peut-être que c'est pas si évident. Enfin, peut-être que c'est un peu autre chose qu'il montre, finalement. Alors, il faut quand même se souvenir qu'il y a encore quelques années, on savait pas trop qui était Joséphine Baker. C'est pas comme si on avait trouvé à l'époque hyper utile de se rappeler toutes les star people d'il y a 50 ou 100 ans. Et puis, alors je sais pas bien qui, quelqu'un a eu l'idée de reparler d'elle à un moment, genre pour dire qu'il y avait déjà des Noirs en France depuis longtemps. Et ça se passait dans des moments où Macron avait quand même bien envie, à ce moment-là, ça avait fait un petit peu des polémiques, de rendre différents hommages à différents vieux fachos. Maurras, peut-être qu'on se rappelle de la polémique sur Maurras, ou peut-être qu'on se rappelle du moment où Macron expliquait que Pétain, oui, mais bon, mais quand même, ça avait été un grand général, ou je ne sais quoi. À ce moment-là, quelqu'un a dû prononcer le nom de Joséphine Baker, mais comme finalement l'électorat d'extrême droite ne suffit pas tout à fait à Macron, il a dû se dire un jour de pluie qu'il pouvait, ma foi, toujours repasser le catalogue des gens qui avaient été célèbres un jour, et puis rendre un hommage à autre chose qu'un vieux mec blanc d'extrême droite, et là, il a dû tomber sur Joséphine Baker. L'avantage d'une star du musical, c'est que quand même c'est un peu creux, ça sert pas à grand chose. Il y a de grandes chances pour qu'elle ait jamais rien dit d'important, d'où le moindre risque de polémique. Et puis comme on a pu nous expliquer un peu depuis, Joséphine Baker, elle était un peu de gauche parce qu'elle était antiraciste. Alors c'est vrai que maintenant il faut être vraiment de gauche pour. Il y a eu une époque où même la droite trouvait que le racisme c'était mal. Bon, enfin cette époque on n'est plus vraiment dedans. Donc elle était un peu de gauche pour ça, puis elle était quand même un peu de droite parce qu'elle aimait aussi bien boire du champagne ou je ne sais. Enfin bon. Vous voyez, le genre de truc qu'on a pu entendre ces derniers jours à la radio, là, qui sont des fois un peu hallucinants de bêtises. En tout cas, elle a aussi, en plus, été la maîtresse de deux ou trois vieux barbons de la France éternelle, genre Maurice Chevalier ou je sais pas quoi, là. Et du coup, même les pires fachos, finalement, peuvent pas avoir grand-chose contre elle. Après, alors je ne suis pas allé vérifier, disons que je ne suis pas historien pour creuser toutes ces histoires dans l'histoire avec un grand H. Alors, il y a l'histoire de son implication dans la résistance. Bon, même si on dirait que Joséphine Baker, au moment où elle était résistante ou agente, ou on ne sait pas exactement quoi, était tellement forte, tellement modeste et tellement discrète que, ma foi, il ne reste pas non plus énormément de traces. Alors, tout le monde dit elle a été résistante, mais personne n'est capable de dire exactement en quoi elle a été résistante, quand même. À part qu'elle a parlé avec De Gaulle. On sait aussi que Joséphine Baker, et alors ça, Macron et des Finkielkraut, des gens comme ça, ils adorent tellement. On sait qu'elle s'est barrée des États-Unis parce que là-bas, les gens sont tellement racistes. Et alors, du coup, elle est venue en France. Parce qu'en France, par contre, le racisme, c'est bien connu, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, surtout si on considère qu'une sorte de femme black sexy qui danse sur scène avec une ceinture de banane devant des vieux gars élevés au fantasme colonial, ça n'a rien à voir avec le racisme. Alors oui, en fait, c'est vrai quand même que dans le milieu du XXe siècle, c'était un racisme qui était hyper différent entre les États-Unis et la... C'est vrai, là je fais du premier degré. Entre les États-Unis et la France, et Joséphine Baker n'est pas du tout la seule noire américaine à être arrivée en France et à trouver que c'était tellement classe la France. En fait, c'est juste que le racisme de France et d'Amérique est hyper différent. Et typiquement, dans la perspective d'une Joséphine Baker... Ce qui se passe, c'est que autant en Amérique, des mecs blancs n'auraient jamais voulu coucher avec une black, autant en France, les mecs blancs rêvaient de coucher avec une black. En fait, dans les deux cas, c'était bien du racisme. C'était juste pas le même du tout. Et du coup, voilà. Qu'est-ce qui se passe, c'est que donc voilà, depuis quelques jours, on aura tout entendu sur Joséphine Baker. Et là, alors Joséphine Baker, son choix de la France. Donc son implication héroïque dans la résistance, voilà, dont on sait quand même rien du tout, son immense talent, et puis voilà, là on en est carrément à les miracles que Joséphine Baker réalisait. Il paraît qu'il suffisait de la toucher pour guérir des oreillons. Les historiens sont formels sur le fait qu'elle pouvait réciter par cœur plus de 300 décimales du nombre pi. On prétend que c'est elle qui aurait en réalité peint la Joconde, qu'elle aurait écrit les paroles de la Marseillaise et inventé l'avion à réaction et peut-être le sandwich jambon beurre. Joséphine Baker, c'est plus une personne humaine, c'est une sorte de déesse nationale, c'est une héroïne, une vraie, de vraie, de vraie. Alors, finalement, c'est vrai que le Panthéon, par exemple, moi, c'est pas finalement exactement l'endroit qui me fait triper. C'est pas tout à fait là que j'aurais l'idée d'aller chercher mes héros, mais alors mes héroïnes, encore moins. Parce que, de toute façon, vu le nombre de nanas qu'il y a là-dedans, j'aurais pas beaucoup de chance de les trouver. Le Panthéon, je m'en fous aussi des cendres, des os, ou des rien du tout en l'occurrence, hein, parce qu'en l'occurrence, Joséphine Baker, son corps, il est à Monaco, puis il n'en bougera pas. Mais de ce qui est, ou de qui y est, de qui n'y est pas, et de qui n'y est pas tout en y étant. Mais tout ça n'empêche pas de se souvenir de la manière dont la France aime les Noirs et les femmes noires. Alors, est-ce qu'on va parler des morts et des mortes, en particulier en Méditerranée ? Est-ce qu'on va parler de l'aide apportée par la France, et plus généralement l'Europe, au système d'esclavage, de torture et d'esclavage sexuel orchestré en Libye, en particulier avec l'aide de la France et de l'Europe aux gardes-côtes libyens, qui sont vraiment des sortes de chasseurs d'esclaves ? Est-ce qu'on va parler de, je dis n'importe, enfin vraiment les trucs qui nous tombent sous la main, mais de cette jeune fille qui était sortie de chez elle en Seine-Saint-Denis pendant le confinement pour aller acheter des couches à son gamin qui était noir et ma foi qui a été assommée par des flics pour non-respect du confinement. Assommée, hein, je veux dire, elle a vraiment été méga matraquée quoi. Est-ce que, alors on nous répète que Joséphine Baker aurait adopté des enfants de toutes les couleurs de peau et de toutes les religions. On se demande si elle aurait pu faire ça aujourd'hui. Si elle aurait craint tous les jours pour ses gosses, pas très blancs, donc pour la plupart, pas très catholiques, si elle se serait fait un sang d'encre en pensant à la possibilité que ses enfants rencontrent la police de Darmanin. Joséphine Baker est rentrée au Panthéon, donc, d'après bien des commentateurs, ce serait de la part du président un message fort pour promouvoir une France antiraciste. Mais alors, d'après moi, en regardant ce qu'est vraiment la France d'aujourd'hui, en regardant le reste de toute l'action de ce gouvernement, la phrase que j'ai écrite est bizarre. En regardant toute l'action de ce gouvernement, le message dirait plutôt que la France n'a rien contre les femmes noires, mais quand même à une seule toute petite condition, à la condition que ces femmes noires soient mortes.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et de mort et de morte, il en est encore question. Et c'est lors d'une conférence de presse du 28 novembre, du coup de dimanche, soit à peine 4 jours après le naufrage qui a coûté la vie à 27 personnes. Et alors même que tous les corps n'ont pas pu être identifiés, il semblerait que le souci premier du ministre de l'Intérieur était d'allumer des contre-feux un peu de partout pour qu'on ne puisse pas du tout pointer sa politique et celle de l'Europe comme responsable de ce drame et des nombreux drames qui se jouent en Méditerranée et dans la Manche quasi quotidiennement. Il est d'ailleurs tellement soucieux d'apporter un peu d'humanité dans tout ça que sa première réaction a été d'envoyer au cachot 5 passeurs présumés que même d'après le parquet, on n'a pour l'instant aucun lien avéré avec le bateau qui a chaviré. Alors sa deuxième réaction a été d'annoncer qu'un avion Frontex allait survoler la zone pour surveiller et déjouer les tentatives de départ et prévenir ainsi toute noyade. Comme on vous le disait il y a 15 jours, pour ce qui est du travail de Frontex en Méditerranée, autre lieu de nombreux naufrages, leur surveillance consiste à surveiller la zone libyenne et informer au plus vite les gardes-côtes libyens pour que les embarcations en péril soient ramenées en Libye et non pas en Italie ou à Malte, afin qu'ils ne finissent donc pas en Europe. Dans la Manche, on se demande comment ils vont procéder, puisque là, le problème est inverse. Est-ce qu'ils vont informer au plus tard les gardes-côtes français pour que les personnes soient du côté de la zone anglaise ? On ne sait pas encore, suspense. Mais ce qu'on sait, c'est que quand Frontex débarque sur une zone, ce n'est pas le nombre de morts qui diminue, mais les conditions de vie et de passage des migrants et migrantes qui surdurcissent. Mais alors, dans cette conférence de presse, on a donc atteint des sommets. Donc, en plus de tout ça, puisque le deuxième responsable des naufrages, en plus des passeurs, ce sont, non pas les dirigeants européens, mais les migrants et migrantes eux-mêmes, car vous ne le savez peut-être pas, mais pour Darmanin, je le cite, ce qu'on a vu, c'est que les migrants utilisaient des bébés et les menaçaient de les jeter dans une eau à quelques degrés sur un moteur si les policiers français venaient à les interpeller. En tant que ministre de l'Intérieur, je le redis, la consigne, ce n'est de ne pas intervenir dans ces conditions. Nous ne pouvons pas mettre en danger la vie d'enfants et de vieillards qui sont parfois basculés dans la mer. Alors je vous jure, il a prononcé...
Ah non, j'avais pas entendu ça. Ah.
Voilà.
Attends, je vais aller vomir.
Et donc voilà. Donc en gros, pour Darmanin, voilà, voilà ce qui se passe un peu quotidiennement en Méditerranée. En tout cas, ce qu'on ne sait pas, hein, c'est d'où il tient ces infos. Enfin, si du témoignage de flics présents sur les embarcations. Combien de fois cela est arrivé? On peut remettre en doute de si c'est réellement arrivé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en vrai, on s'en fout pas mal que des gens aient fait ça une fois, dix fois, l'aient pas fait ou quoi. Juste, c'est le fait de le dire à ce moment-là, juste de le dire et pas dans le sens qu'il faut que c'est une info à cacher, mais juste de pas se dire, quand on est une personne en responsabilité, de si vraiment on croit à cette information, de pas se dire, mais en fait, si on en arrive là, ok, on arrête, on reprend les choses à la base et c'est juste pas possible que ça puisse arriver. Non, non. Là, c'est ce qui est dit ici, ça prouve le niveau d'immondice que ce type a dans le crâne et que parallèlement à ça, eh ben, l'État, grand seigneur, paiera le rapatriement des corps.
Joséphine Baker aurait été tellement fière de la France.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Eh ben non, bah c'est vrai que j'aurais préféré une petite musique qu'on n'a pas pensé à prévoir avant d'attaquer mon truc, parce que là, ça fait transition un peu chaude, quoi.
Ah, tu veux dire qu'on aurait dû mettre ça après le 440, quoi, dans une logique un peu éditoriale, hein, comme on pourrait dire. C'est-à-dire de mettre les... Ouais, c'est vrai, on y repensera pour la prochaine fois.
On prévoira mieux la prochaine fois. Non, bah là, moi, je parlais SNCF, écoutez. Et TER... Alors parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup Grenoble, Chambéry, tout ça, en fait il va y avoir sacrément moins de trains dans les semaines qui viennent, des trains Lyon-Grenoble, des trains Chambéry-Grenoble, des trains Mâcon-Lyon, par exemple la moitié des TER vers Grenoble, de Lyon à Grenoble, vont être supprimés.
À cause de la neige?
Oui, entre autres, mais de plusieurs raisons. Donc voilà... Alors la moitié des TER aux heures de pointe, hein, de la ligne Lyon-Grenoble vont supprimer, alors au moins pour 15 jours, mais bon, on verra si ça se trouve plus, la raison des problèmes de disponibilité de matériel, et puis d'autres lignes régionales, donc voilà, comme j'ai dit, Grenoble-Chambéry, Mâcon-Lyon, seront également touchés par des réductions, voire des suppressions de rames. Alors, trois causes. À commencer par l'effet de saisonnalité, et donc là, oui, effectivement.
Ah.
Figurez-vous qu'il y a des chutes de neige et des chutes d'arbres, et ou des amas de feuilles mortes sur les rails.
Et on n'a pas l'habitude.
Eh bien ça, on n'a pas l'habitude, c'est vrai que c'est un peu inattendu. Et tout ça a engendré une dégradation des essieux de certains wagons qui nécessitent d'immobiliser des rames. Ouais.
Et dire que c'est à flux tendu, quoi. Il n'y en a pas beaucoup de rechange, quoi.
Ah en fait, c'est bien ça le problème. Qu'il n'y aura pas beaucoup de rechange. Et donc, ces rames, on les envoie dans les centres de maintenance. Un reprofilage des cieux. C'est une journée de travail dans un atelier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de train. Là, tu répares un train, hop, et t'es emmerdé parce qu'il n'y en a pas d'autres pour remplacer. Ensuite, alors, passage de gibier, collision au passage à niveau, accident de personne. Le volume des chocs a augmenté de 60% entre 2019 et 2021. Alors, on a dit passage de gibier. Est-ce que le gibier a augmenté de 60%? Ça m'étonnerait. Accident de personne. Ah, on imagine qu'effectivement, vu le monde dans lequel on vit, il y a plus de gens qui se balancent sous des trains. Et puis, collision au passage à niveau. Est-ce que là, par exemple, il n'y aurait pas une sorte de petit souci dont la SNCF pourrait être un petit peu responsable à un moment? En tout cas, 60% entre 2019 et 2021 est détérioré, là encore, un certain nombre de rames. Et troisième problème... Les centres de maintenance, là où on envoie ce matériel dégradé par les feuilles, la neige ou les gens sur lesquels ça a roulé, ces centres de maintenance manquent actuellement de personnel. Eh oui, beaucoup de cas de Covid, ont été détectés par les personnels qualifiés. Ces trois facteurs combinés font qu'en ce moment, nous avons beaucoup plus de rames qui entrent dans les ateliers de réparation que de rames qui en ressortent. L'entreprise nationale a indiqué qu'elle allait renforcer les équipes de ses centres de maintenance et envoyer certaines rames dans d'autres ateliers de France pour accélérer la réparation de ces matériels. Alors Sudrail, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que depuis des années, les effectifs liés directement à la production fondent au profit des postes d'encadrement. Et oui, c'est qu'à la maintenance, vous pouvez toujours envoyer un chef, un directeur, un je ne sais quoi. Ma foi, il ne répare rien du tout. Et comme pour le coup, en fait, les gens qui conduisent les trains, les gens qui les réparent, les gens qui réparent les lignes, tout ça, bah, y en a moins. Mais que par contre, il y a plus de directeurs, bah oui, c'est vrai, du coup, c'est plus compliqué de réparer des trains ou de réparer des lignes. Sudrail continue en disant les multiples réorganisations de l'entreprise, notamment la réforme ferroviaire de 2018, en sont une des causes, mais la pression financière de la région est une autre explication. Ah, la région, dont je n'ai pas précisé, mais c'est quand même l'article que je racontais avant, termine par le fait que la région, et donc la région, ça veut dire Wauquiez, hein, est vraiment scandalisée de ces suppressions de lignes. Elle est scandalisée, mais bon, elle ne veut pas lâcher le pognon. En effet, nous dit Sudrail, la politique de la région, autorité organisatrice des transports, est de faire baisser les coûts et, semble-t-il, quelles qu'en soient les conséquences. Aujourd'hui, il manque 30 agents pour faire la maintenance des sites lyonnais, Vez, Vénissieux et La Mouche, et 40 contrôleurs pour accompagner les trains. On dit encore les contrôleurs dans les trains ne servent pas que à contrôler les billets, et en fait, ils sont un peu nécessaires. Là, pour que le train roule, quoi. La fin du recrutement au statut, c'est-à-dire que les gens qu'on embauche maintenant ne sont plus cheminots, ils ont plutôt un statut de merde, alors que cheminot, c'était pas mal. Aucune augmentation de salaire depuis 8 ans. Des salaires, de toute façon, à l'embauche, très bas. Alors, les gens, en fait, tu les embauches en les payant des cacahuètes, et après, tu les augmentes jamais. Des conditions de travail, nuit, week-end, tout ça. Bah, ma foi, ça fait que les gens de la SNCF, plutôt que plein de gens qui seraient attirés pour venir bosser à la SNCF, plutôt ils démissionnent et ils se barrent. À cela s'ajoute un matériel acheté par la région. Alors, un nouveau matériel, hein, pour le coup, ils ont acheté du nouveau matériel, mais c'est du matériel high-tech pour lequel il faut des formations. C'est con parce que comme on ne peut pas libérer les gens vu qu'il y a pas assez de vu que personne veut bosser, et donc ceux qui bossent, on est obligé de les faire bosser tout le temps, personne n'est formé sur les nouveaux matériels. Donc les nouveaux matériels, ma foi, c'est con, mais personne ne sait s'en servir. Voilà, ça c'est ce que nous disait Sudrail. Alors c'est vrai, Sudrail, on les connaît, ils et elles râlent tout le temps. Mais bon, voilà, à la fin, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que les gens, ils n'ont qu'à prendre leur bagnole, hein. C'est bon, hein. C'est pas comme si les voitures c'était un problème, par exemple, pour la pollution, non. Et le pognon, c'est pas comme si on avait un problème de réchauffement climatique global et si le train n'était pas le moyen de transport le moins polluant du monde. Et puis, ma foi, ce pognon, celui qui pourrait servir à embaucher du monde à la SNCF, parce que c'est les TER, mais c'est aussi globalement la SNCF. C'est-à-dire qu'il y a du pognon régional et du pognon national. Le pognon qui pourrait servir à réparer les lignes aussi, on a autre chose à en faire, c'est vrai. Bon, par exemple, faire la gratuité des transports pour les flics, ça c'est au niveau régional, c'est très très important parce que c'est vrai qu'on se sent vachement plus en sécurité quand on sait ça. Et puis, si on avait plus de flics au niveau national pour, par exemple, aller justement lacérer les tentes des migrants à Calais, ça serait quand même vachement plus grave.
D'ailleurs, l'acération où le ministre le garde des Sceaux, voilà, a déclaré sur un plateau télé, monsieur, madame, vous ne pouvez absolument pas me poser cette question. Il est impensable qu'on puisse que la République demande aux forces de l'ordre de lacérer tente et interdise la distribution de repas.
Est-ce que Dupond-Moretti est capable d'imaginer ou pas est finalement un gage de vérité bien plus important que les multiples témoignages, vidéos, films, preuves concrètes.
C'est ça. Il te disait ça, la larme à l'œil devant la caméra sur les par rapport au naufrage, on a comme ça avec la voix, avec les petits trémolos dans la voix, comme il en est capable. Bon bref, on n'en est pas. Quand on parlait d'immondices dans le crâne des gens, et finalement c'est pas que du côté du ministère de l'Intérieur, j'ai l'impression.
Ouais, non, le ministère de la Justice se démerde aussi.
On va vous lâcher plusieurs minutes en avance pour cette fois-ci. Et le temps pour vous d'écouter 20 bonnes minutes de bande continue. Vous retrouverez juste après ça l'émission Idées Noires. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. C'était le Canu Info.
La plus rebelle des radios.